RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Et nous y sommes. 7h10, c'est RMC, le week-end des experts, deuxième partie de notre rendez-vous jardin avec toujours un Patrick Mulan en pleine forme, voilà, qui nous accompagne jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra, le bricolage, la maison, la déco. Et avec Christian, tout à l'heure, on s'intéressera aux insectes dans la maison. On restera un petit peu dans cette ambiance nature. C'est vrai qu'avec toute cette pluie, cette chaleur, c'est favorise bien sûr la prolifération des moustiques et autres insectes dans la maison. On en parlera tout à l'heure avec toutes vos questions et puis surtout nos invités qui pourront vous aider. Ça sera donc à partir de 8h, le bricolage, la maison, la déco. Mais dans l'immédiat, deuxième partie de ce rendez-vous jardin, place aux plantes médicinales et aromatiques.
Et aromatiques. D'ailleurs, les aromatiques qui vont peut-être nous aider aussi à éloigner un peu les moustiques. On va voir avec nos invités.
Ça, tiens.
Après, ouais. Non, mais on va avoir l'occasion de débattre.
Non, mais il y a des herbes qui éloignent les mouches en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment?
Non, mais par exemple, la mélisse, surtout la citronnelle. Alors moi, j'ai remarqué en revanche que les eucalyptus, il y avait rarement des moustiques qui volaient en dessous.
Ah oui, ils aiment pas ça.
Ça sent quand même pas mal. Mais on va voir tout cela parce que justement, ça va être au cœur du sujet. Donc toutes ces plantes qui exprime des essences, des huiles essentielles avec des odeurs particulières. Et c'est pas les odeurs qui sont parfois les plus importantes, c'est les vertus qu'il y a à l'intérieur de tout cela. Et pour parler de ce sujet, on a deux invités et puis beaucoup de plantes dans le studio. David Demaret, bonjour. Alors on vous connaît, directeur du magasin botanique de Suresnes. Invité régulier de cette émission, donc qui est venu avec plein de plantes pour nous parler justement que les jardineries aujourd'hui ont encore de quoi vous satisfaire, je le disais déjà dans la première heure, parce qu'on a pris pas mal de retard sur la saison, donc on va pouvoir planter. Et puis une invitée pour la première fois, Simone Bourgarel, donc qui a publié au printemps un livre, un petit livre vraiment sympa qui s'appelle La femme à couper naturelle, et qui va nous parler effectivement toutes ces produits, toutes ces substances. Ben on va donner la parole tout de suite à Simone. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Écoutez, c'est sympathique de commencer cette matinée sur une note aromatique. Effectivement, ces aromatiques sous-entendent évidemment arômes, donc elles ont des effluves. C'est très agréable au jardin. Ça permet effectivement, on en parlera tout à l'heure j'imagine, d'éloigner quelques insectes. On parlait tout à l'heure de l'eucalyptus. Moi je pense aussi à la capucine, très jolie, qui grimpe le long des arbres et qui...
Ça les éloigne pas, ça attire les pucerons comme c'est pas permis.
Ouais, c'est
une autre façon de les contrôler du coup. Ils sont plus du tout...
Ils sont capitalisés sur le
lieu. Mais ce qui est sympathique avec ces plantes avant tout, et cette passion que j'ai développée, c'est que pour moi c'est la plante nomade. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter partout. C'est une plante
Elle peut
se balader partout. Elle peut filer. On pense à l'amande peut-être.
Oui, voilà.
Mais il y a des ruses pour pas qu'elle file. Et surtout, c'est facile à cultiver. Donc c'est une première approche au jardin. C'est pour moi la petite Madeleine de Proust. On peut commencer facilement à faire un jardin avec un petit pot, terrasse, un jardin, une cuisine, si on n'a pas la chance d'avoir un terrain. En tous les cas, cette plante, on la déplace avec soi, on peut la mettre sur son bureau, si on a envie d'avoir un peu de soleil, comme voilà. dans son bureau.
Ah oui, on peut s'en garder, c'est vrai qu'on peut se garder peut-être un petit pot de basilic sur le coin du bureau.
Juste une chose, en nos invitants à apporter énormément de petits pots de plantes aromatiques, et ça sent très très bon dans le studio. D'ailleurs, on va poster une petite photo sur la page Facebook de votre jardin pour que vous voyez l'ambiance. En fait, le studio ressemble plus à
un petit jardin
voilà. Ce matin. Et ça sent le basilic, là. J'ai un basilic juste à côté. Ça sent le basilic, c'est très agréable.
On va peut-être commencer par lui, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un peu la plante emblématique des aromatiques. David, le basilic, on le voit arriver au début de saison, enfin au début du printemps. On peut continuer à en planter maintenant ?
Le basilic, oui, tout à fait. Le basilic, on va l'avoir jusqu'au mois de septembre, octobre, hein, sans problème en vente en jardinerie. Alors le basilic, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près plus de 100 variétés de basilic qui existent. Donc il y en a énormément.
Les basiliques,
ça va de la grande feuille, celui qu'on connaît communément, à la petite feuille. Alors moi, j'ai plutôt une préférence pour la petite feuille parce qu'il est beaucoup plus parfumé que la grande feuille.
C'est le marseillais ? On la grande feuille, la petite feuille. On l'appelle pas le Marseillais.
Non, le Marseillais, c'est encore une autre variété. Basilic Marseillais, c'est une feuille encore plus large qui sert à la soupe au pistou. Il y a le basilic thaï, il y a le basilic citronné,
le basilic citron, lui, il a des petites feuilles.
Il y a plein de variétés.
Le purple ruffles, c'est un basilic pourpre intense.
C'est ça.
D'ailleurs, ça peut être sympa dans une même jardinière de mettre plusieurs variétés de basilic parce que du coup, on se fait pratiquement déjà un petit décor de jardin. Moi, ce que je voulais dire sur le basilic, contrairement à ce qui est écrit la plupart du temps dans la littérature, n'arrosez pas trop cette plante. Laissez-la, on va dire, commencer, alors j'appelle ça frisoter, c'est-à-dire avoir des petites vénules sur les feuilles qui vont vous dire, ah, je commence à avoir soif. Parce que si vous l'arrosez trop, ça pourrit très vite. On a beaucoup de gens qui nous appellent en disant, ah, j'ai planté mon basilic, il est tout noir. Oui, bah, vous l'arrosez trop. Donc, moi, j'ai beaucoup de succès avec le basilic en l'arrosant modérément.
Après, ce qui est important aussi pour le basilic, c'est un sol relativement quand même drainant. Il faut pas un sol lourd. Donc, on privilégie selon les régions de plutôt le planter, enfin, de l'avoir en pot ou en jardinière que dans le jardin. On va laisser ça plutôt pour les gens du sud dans le jardin. Et ce qui est important aussi, notamment pour le basilic grosse feuille, il faut le pincer régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut enlever les feuilles à l'extrémité de la tige de sorte à le fortifier tout le temps. D'accord. Parce que sinon, ce qui se passe aussi, c'est qu'au bout de quelques semaines, on me dit, mon basilic, il est tout jeune, il file, j'ai plus beaucoup de feuilles, il me reste plus que les tiges. Donc il est important de bien le pincer de sorte à continuer à l'étoffer.
Et d'ailleurs, on voit que les variétés à petites feuilles sont quand même plus faciles à réussir en jardinière que celles à la grosse feuille.
Exactement.
Alors Simone, le basilic, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ah, le basilic, qu'est-ce qu'on en fait ?
On peut en faire plein de choses, du basilic.
Alors, on peut en faire plein de choses. Effectivement, on a évoqué le principe du pistou, ça tout le monde le sait, mais on peut surtout aromatiser. Alors, il y a un petit truc sur le basilic, sur l'angle plus... utilisation et remède, c'est que si on le fait cuire, il perd quelque part un peu toutes ses vertus. Donc il vaut mieux effectivement le cisailler à la dernière minute sur son poisson, sur sa viande, sur sa salade. Et puis si on veut en avoir toute l'année, tiens, comment on fait ? Ça va être un peu compliqué pour l'hiver, même si ça va jusqu'au cycle d'automne. Moi j'ai un petit truc. Vous faites des glaçons d'huile d'olive. On s'échappe un peu, on repart vers le sud.
On fait des glaçons d'huile d'olive.
Exactement.
Tiens, il faut du froid là pour.
Il faut du froid, il faut un petit congélateur, mais il y a un petit congélateur. Et puis ensuite, quand ça va tout simplement fondre au cœur de l'hiver, ça vous fera votre note parfumée.
Ah oui, donc
avec
en fait, on met dans le petit carré, on met une feuille de basilic, on met l'huile d'olive dessus,
exactement.
On met ça au congélateur et on obtient donc un glaçon à l'intérieur duquel il y a la feuille.
Il y a la feuille et l'arôme. Et du coup, elle est conservée. Et ça, c'est mon petit truc en plus pour faire une salade au cœur de l'hiver, en plein de décembre. Où est-ce que tu as trouvé du basilic ? Je l'avais trouvé en jardinerie, je l'ai planté et il a duré, mais il a duré différemment. Voilà.
Alors, vous savez qu'il ne faut pas offrir de basilic aux personnes qui connaissent le langage des fleurs. Parce que c'est la plante qui évoque la haine. On disait que c'était une plante maudite parce que on associait à la misère, à la pauvreté des gens qui en fait étaient vêtus de haillons et qui transportaient le basilic. Alors ça date pratiquement du Moyen-Âge. Alors en revanche, ça peut être intéressant pour certains. En Italie, on disait que le basilic était un aphrodisiaque si puissant qu'il suffisait qu'un homme en accepte une pousse d'une femme pour ne plus jamais se défaire de son amour pour elle.
Oh, c'est mignon. C'est bon, beau. Je sais pas si ça s'avère exact, ça on va pas rentrer dans les détails. 7h19, on revient dans un instant. On poursuit sur les plantes aromatiques et médicinales ce matin avec nos invités. Le 32-16, venez avec nous en parler, ou alors par mail, jardin@rmc.fr. Cultivez-vous des plantes aromatiques chez vous ? Avez-vous des petites recettes ? Quelles sont celles que vous cultivez ? N'hésitez pas à nous appeler, on vous attend, on est là dans quelques secondes, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Ça sent bon dans le studio d'RMC ce matin. Basilic, thym, menthe, mélisse, lavande. Écoutez, on se croirait dans un petit jardin. Ouais. C'est très agréable. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts jardins avec Patrick Miolan et nos invités. On évoque ce matin les plantes aromatiques et médicinales, Patrick.
Oui, on va même dire d'ailleurs que si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous n'avez pas encore planté, et si vous n'avez même qu'un bout de coin de balcon, c'est le genre de plante que vous pouvez installer vraiment partout. J'avais envie qu'on parle d'une plante. Alors moi, je l'assimile pas trop à une aromatique. C'est vraiment dans la pharmacopée qu'on la trouve, mais c'est surtout une plante très très intéressante à la fois sur le plan ornemental et sur le plan biodiversité, parce que ça attire énormément les insectes, c'est la bourrache. Donc la bourrache Borago officinalis pour les amateurs de botanique. D'accord. On en a une ici, donc ça fait des feuilles assez, on va dire velues, mais en même temps un peu rugueuses. Quand c'est au toucher, c'est pas trop agréable. Mais en revanche, ça fait des belles grappes de fleurs bleues qui attirent mais les insectes d'une façon irrésistible.
Tout à l'heure, on avait notre auditrice qui se plaignait justement de ne plus avoir d'insectes chez elle.
Ça fait partie des
ça
plantes
marcher,
que
là.
L'on peut vraiment mettre. Bon,
et ça attire quel type d'insectes, ça?
Essentiellement les pollinisateurs, vous avez beaucoup les abeilles, les bourdons qui viennent là-dessus.
D'accord.
Ah oui, hein. Oui. La bourrache, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qu'on trouvait pas, enfin on la retrouve dans les jardineries, mais avant on la trouvait pas du tout.
Surtout en pot. En graines.
Oui, voilà, plus en graines, parce qu'on était justement dans ce type de plante mellifère qu'on appelle, qui attire les abeilles. Donc la bourrache, on va la planter, alors moi je vais la conseiller plutôt dans le jardin, parce que c'est une plante quand même qui a tendance à se développer fortement.
D'accord. Qui prend ses aises.
Voilà, qui est un port plutôt noble d'ailleurs, et qui a, je dirais tant mieux, c'est qu'elle se ressème très facilement.
Oui, parce qu'on est sur une annuelle, voilà. Mais on va avoir l'impression que c'est une plante vivace, parce que une fois qu'on l'a plantée, on la voit.
Un très gros port.
C'est ce que disait Simone tout à l'heure, c'est une plante qui se promène dans le
tout
jardin.
Tout à fait, ça se ressème très facilement. En fait, en fin de saison, cette plante va libérer des graines qui vont tout simplement s'envoler tranquillement et qui vont redonner des ampes bleues. Moi, j'adore les blanches, c'est plus rare, mais oui. On peut en avoir aussi.
Mais je pense qu'elles reviennent au type. Quand elles se sèment naturellement, les blanches, elles redeviennent bleues.
Oui. Et puis, c'est le composé volatile qui fait l'effet répulsif au niveau de cette plante aromatique, puisque ça se répand, ça sent bon. Et moi, j'ai une tendance
à... C'est répulsif contre quoi?
Alors, c'est répulsif par rapport... on y arrive. Moi, je la mets plutôt dans le potager.
Pour protéger les légumes.
Ouais. Donc du coup, elle a cette fonction-là pour protéger les légumes. Donc entre la tanaisie ou la bourrache, on a le choix. Mais autour de mes tomates, moi, je mets de la bourrache.
Oui, mais en même temps, comme ça attire les pollinisateurs, ça favorise la pollinisation des tomates.
Après, ce qu'il faut savoir pour la bourrache, c'est quand même l'une des plantes où on peut tout consommer. On consomme les fleurs. On les trouve généralement dans les restaurants, on les trouve maintenant beaucoup dans les salades de fruits. Les feuilles, ça se mange. Je vois pas qui fait des grimaces. Comme des épinards.
Il faut bien les cuire. Parce que je suis en train de les caresser, ces feuilles, et justement, ça me rappelle l'origine du nom bourrache. Bourrache, ça vient du latin bourra, qui désignait une étoffe grossière. Ouais. Et quand vous touchez les feuilles, on a justement l'impression un petit peu de cette rugosité. Moi, j'aurais pas osé en faire.
Dans les pays méditerranéens, on mange donc la feuille et les tiges. Ouais.
Non, et on en fait aussi des beignets, du coup, on sent un peu moins l'aspect rugueux. Oh. Et là, on passe par la zone friture, forcément. Ah. Il faut choisir.
Non, mais en même temps, vraiment, c'est une plante que je vous conseille dans votre jardin et que vous pouvez mélanger avec d'autres mellifères, comme les phacélias, par exemple, ou même les bleuets ou les coquelicots. Ça vous fait une sorte de petit jardin sauvage. Et d'ailleurs, bon, on parlait un peu bio avec David, parce que je sais qu'il est très sensible à ça. Ce genre de plante-là, on met ça dans des endroits où on ne traite pas, évidemment, puisqu'on veut attirer les pollinisateurs.
Alors, on veut attirer les pollinisateurs, puis surtout, c'est le départ aussi de cette émission. Ce qui est important, on parle là aujourd'hui de plantes aromatiques que l'on va consommer, fraîches ou en infusion ou dans des glaçons. Après, ce qui est important, c'est surtout d'utiliser des matériaux naturels. Il n'est pas question, bien entendu, d'utiliser quels que soient des produits toxiques et se dire, après, j'ai des belles aromatiques. Donc, privilégier des terreaux naturels, privilégier des matériaux jardinières, pots naturels.
Ah, qu'est-ce qu'il faut éviter, alors? Tous les insecticides,
tout ce qui est produits chimiques, c'est pas l'objectif.
On va dire tous les insecticides, parce que de toute façon, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient pas naturels,
ils sont
toxiques. Le même effet. Sauf comme je disais tout à l'heure, le BT, le Bacillus thuringiensis, qui lui touche les chenilles et qui n'a pas d'action sur les pollinisateurs. Donc quand vous avez de la pyrale du buis, vous pouvez traiter, même si vous avez de la bourrache à côté. Simone, moi je regardais un petit peu les vertus de la bourrache. On dit que c'est une plante qui fait transpirer. On l'utilise souvent, même en Corse d'ailleurs. Tiens, on fait une soupe aux herbes comme légume fébrifuge.
C'est une plante drainante quand on a un rhume,
etc. Voilà.
J'ai jamais vu ça en Corse, mais bon, je connais pas toutes les.
La soupe aux herbes de Corse. Quand vous allez retourner, vous le demanderez la recette.
Dans le beau maquis, il y a beaucoup d'aromatiques. Oui.
C'est vrai, le maquis. Le maquis sent tellement bon.
On va revenir justement avec le maquis. On parlera du thym.
Oui, avec certaines variétés qui ne sont qu'en Corse d'ailleurs, hein, le maquis, hein, c'est ça qui est étonnant.
Hein. On dirait lesquels?
Bah, ça je sais pas trop, mais je sais que c'est le cas. Alors, Madame C, on va la retrouver dans un instant. Bientôt 7h30, la météo, les infos, et on revient. On évoque les plantes aromatiques et médicinales ce matin, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Pour nous joindre, bien sûr, on vous attend, à tout de suite. Monsieur Miu Miu, attention. Une question de Maryse de Marseille, et c'est la question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à y répondre. Pouvez-vous me conseiller, Patrick, pour réussir à cultiver de la camomille dans mon jardin?
C'est pas très compliqué, hein, parce que la camomille, c'est une plante qui se sème très facilement. Alors, sème bien les sols pas trop riches et un petit peu drainants, donc un peu secs. Ça ressemble vraiment à une marguerite, la camomille. Alors, on en cultive essentiellement deux espèces, mais qui sont difficiles à distinguer, la camomille romaine et la camomille allemande. Ça a exactement les mêmes propriétés. Alors, je rappelle que la camomille, là, on est complètement dans notre thème. C'est une plante qui est très, très utile au niveau digestif. Et on va la semer au printemps, et ensuite ça a tendance un peu à se promener aussi dans le jardin et même à devenir un tout petit peu envahissant. Alors c'est une plante qui est originaire des régions méditerranéennes, donc dans les régions du nord ça peut peut-être donner moins de bons résultats, bien que la camomille allemande, vu son nom, elle est un peu partout dans l'Europe, on la trouve un petit peu partout. Alors c'est une plante qui pousse quand même près du sol, hein. Ça a tendance quand même à s'étaler, et les fleurs, quand elles commencent à éclore, ça a un parfum qui rappelle un peu la pomme. C'est assez étonnant comme plante, hein. Mais c'est plutôt joli, hein, je dirais. Alors on l'utilise aussi en viticulture, on a tendance donc à avoir une plante qui aide à éviter la chlorosphérique sur les vignes, parce que en fait elle dégage de l'azulène, qui est une huile essentielle et qui régule l'évapotranspiration de la vigne. Vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est une plante qui est extrêmement intéressante. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr les capitules, c'est-à-dire donc les inflorescences qui sont solitaires et qui apparaissent de juin à septembre, qui sont blanches avec un cœur jaune, et on va en faire tout simplement de la tisane.
Et 32-16 pour toutes vos questions jardin, on vous attend.
RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Eh oui, on l'attend. Il est toujours là le samedi matin entre 6h et 8h. Monsieur Miu Miu!
Oui, monsieur François, alors...
Toujours ces bonnes odeurs,
voilà,
dans ce studio.
Toujours ces bonnes odeurs d'aromatique. On a évoqué le maquis, alors on peut pas s'empêcher d'essayer d'aller dans des plantes que l'on va trouver par là. On parlait du maquis corse, alors il y a une menthe qui est la menthe corse, qui est une menthe extraordinaire. Je pense que c'est la menthe la plus parfumée qui existe, Simone, la menthe corse.
Oui, c'est la menthe la plus parfumée. Elle est pas très haute, d'ailleurs. Oui, elle rampe. Tapis, ouais. C'est un petit tapis qui rampe, donc ça peut habiller un talus très facilement. Mais il nous faut un peu de soleil. C'est pour ça qu'on se retrouve dans le maquis corse.
Ça qui est chaud, là.
Ça qui est chaud.
C'est pas facile à Paris de faire pousser de la menthe corse.
On peut y arriver, en Normandie, on peut y arriver, mais il faut avoir un peu de patience.
Ouais, hein, c'est la menthe verte, ça pousse tellement facilement. Mais moi, je préférerais la menthe poivrée, d'ailleurs, non, David?
Alors après, c'est une question d'appréciation, de goût. C'est vrai que la poivrée est un peu plus, définition, voilà, plus piquante, si je puis dire.
C'est ça qu'on met dans le thé à la menthe, par exemple, la menthe poivrée.
Alors, la menthe poivrée, il y a la menthe marocaine aussi.
Spécifique,
voilà, qui dégage beaucoup d'arômes également, notamment pour le thé. Alors il y a une menthe aussi qui est intéressante, parce que tout à l'heure vous parliez qui repousse les insectes. Il y a la menthe pouliotte.
Ah oui, pouliotte. Oui, mais alors c'est pas une vraie menthe.
C'est pas une vraie menthe, mais on la qualifie de menthe.
On l'appelle comme ça.
Voilà, et qui a la particularité donc d'éloigner également les insectes un petit peu indésirables.
Ah oui.
Oui.
Le potager, ça aussi.
Dans le potager.
Avec la bourrache.
Avec voilà, avec
et la tamisie
en bord et les capucines.
Pas qui vont les attirer là. En bord de fenêtre. Alors là, c'est plus les fourmis, voilà, notamment. Ouais, un petit peu les moustiques aussi. Donc c'est intéressant cette petite menthe, parce que voilà, on la trouve pas souvent en jardinerie, nous on en a. Donc ça mérite d'être planté, voilà, dans un pot ou dans le jardin.
Voilà. Et puis le parfum est un peu particulier, hein. Il est un petit peu différent.
Il ne faut pas s'attendre à sentir de la menthe.
De la menthe, exactement. En revanche, il y a une plante qu'on confond souvent avec la menthe, c'est la mélisse. Alors, qui a une odeur un peu plus de citronnelle, d'ailleurs, la mélisse, mais ça ressemble un peu dans sa végétation à de la menthe, et ça, c'est assez envahissant. D'ailleurs, la menthe verte, on l'a pas dit, mais vous en achetez un pied seulement, hein, ou alors vous le mettez en pot d'ailleurs si vous êtes si vous craignez que ça soit un peu envahissant.
Ah oui, parce qu'après ça se multiplie, c'est ça.
On pense en avoir un peu partout.
C'est assez traçant, donc nous on la conseille plus en pot, jardinière ou vraiment dans un coin de jardin où il n'y a pas grand chose qui puisse pousser, parce que ça on est sûr que ça va bien s'implanter et c'est parti.
Alors la mélisse, ça pousse tout seul, Simone, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Alors on peut faire beaucoup de choses avec la mélisse. On peut d'abord l'utiliser dans la cuisine, ça donne un goût. Effectivement, c'est une des plantes qui est les plus concentrées en huile essentielle de, de citron, notamment au printemps, puisque c'est quand elles sont en petite pousse que l'huile est plus concentrée au niveau de la tige. Mais également, ce qui est très intéressant, c'est que cette plante, imaginez que vous ayez un insecte pollinisateur qui passait par là dans le jardin auprès de votre balcon et que vous fassiez piquer. D'un seul coup, vous prenez une petite feuille de mélisse, vous la froissez, vous la frottez légèrement sur la peau et ça calme immédiatement la douleur.
Sur la piqûre d'abeille.
Sur la piqûre.
De guêpe, d'abeille.
Alors bon, guêpe, abeille, si on en est là, arrivé là, il va peut-être falloir envisager d'enlever quand même le dard de voilà. Mais moustique, ça calme également.
Tiens.
Donc ça calme, et ça calme d'ailleurs les fibres lisses au niveau des intestins. Donc c'est une plante qui est très intéressante sous l'angle digestif, puisque
une petite recette.
La petite recette, on l'utilise toute seule parce que la mélisse en soi, c'est déjà tout un univers.
Mais on va la manger comme ça ou on fait une infusion?
Alors, on peut faire ou une infusion ou une décoction. Une décoction, c'est un départ dans l'eau froide, c'est tout simple. Pourquoi la différence réside simplement dans le fait de libérer plus de principes actifs. Et si on veut libérer plus de principes actifs, à ce moment-là, on va utiliser la décoction. Parce qu'on va laisser macérer la plante au moins 10 minutes et la filtrer, bien évidemment. Pour les plus amateurs...
Donc en fait, on prend de l'eau froide, on met la plante dedans,
on porte à ébullition...
On coupe, on stoppe
10 minutes et ensuite on filtre.
Voilà.
Si on veut aller dans une fonction plus rapide et après un déjeuner, léger ou pas d'ailleurs, pourquoi pas agrémenter ce déjeuner avec une petite infusion. Et là c'est beaucoup plus facile puisqu'on peut tout simplement verser de l'eau chaude dessus. Et comme un principe d'infuser, on infuse 7 minutes. Alors 7 minutes pour les principes actifs des plantes, pas 2 minutes, hein, ça va pas aller.
Même quelle température de l'eau, c'est important la température?
Alors,
de l'eau,
la température de l'eau, ça peut être important pour les puristes. Alors oui, on va passer pas à l'ébullition complète. Donc on va s'arrêter à 90 degrés.
Mais c'est quoi? C'est le frémissement?
C'est le frémissement par-dessus, au-dessus de la plante. Alors
aujourd'hui, les bouilloires, elles sont bien parce que vous pouvez programmer.
Oui, sélectionner la température.
Voilà, on peut tout faire, voilà. Oui, mais bon, ce qui est intéressant aussi, et je vais le redire là, c'est que au niveau des principes actifs, puisqu'on en parle, il faut essayer de les préserver. On est des plantes de qualité là aujourd'hui dans le studio. Il faut savoir quand même qu'il faut éviter de les filtrer avec une passoire à métal, par exemple.
Parce que ça, on va bloquer.
On va réduire le principe actif de la plante. On va le bloquer parce qu'il va se retrouver
alors
opposé.
C'est le plastique qui est mieux?
Absolument pas. Ce qui est mieux, ça serait plutôt une petite passoire en bambou. Terrible.
Et d'ailleurs,
pourquoi filtrer? Mais pourquoi pas essayer de...
Dans un linge ou dans un filtre
en coton, une mousseline non blanchie à l'eau de Javel, si possible. Terrible, c'est facile.
On retourne au Moyen-Âge, là.
Mais presque, on est dans le carré des simples. Voilà.
mais les simples sont pas si simples.
Non, les simples sont pas si simples.
Alors on va parler, puisque vous évoquez les simples, on va parler de la sauge.
Oui, alors vous savez quoi? Avant de parler de la sauge, vous savez que priorité aux auditeurs.
Bien sûr.
Et notamment aux auditrices, nous avons Anne-Marie qui a une question pour vous.
Ça, c'est une bonne question.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. J'ai un problème. J'ai toujours vu de l'estragon dans la famille.
Oui.
Des touffes énormes.
Oui.
J'en avais moi-même le long du mur comme ma grand-mère, de façon à protéger le maximum. Et depuis quelques années, impossible, les taupes ou les mulots...
On soulevait l'estragon.
Oui, ils retirent tout.
Il faut le déplacer, il faut le mettre ailleurs.
Je l'ai déplacé.
Et ils sont revenus?
Il y a un champ à côté où il y a pas mal de taupes. On en a retiré des taupes, je ne sais pas combien. Et puis, il y en a toujours. Il y a des circuits sûrement qui leur plaisent.
Oui, en fait, votre problème, il est plus de taupe que d'estragon, parce que...
Parce que l'estragon, est-ce qu'on peut vraiment bien le mettre en pot?
Ah oui, David.
Oui, il y a pas de souci. En plus, l'estragon, c'est quand même une plante. Voilà, quand elle se plaît, elle s'enracine plutôt bien. Et quand elle aime pas, elle aime pas du tout. Moi, c'est un peu compliqué.
Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas aussi simple que cela. Alors, non. Il faut savoir une chose, c'est que le bon estragon, celui qui a vraiment cette odeur très puissante, très originale, qu'on retrouve dans la sauce béarnaise notamment. On en a que des pieds. Hein, ça ne se sème pas.
Non.
Les graines d'estragon qu'on peut trouver parfois sont de l'estragon de Russie qui n'a absolument rien à voir. Odeur.
Tout à fait.
Ah non. Et là, c'est une armoise en fait l'estragon. Donc c'est pour ça ce que disait David. C'est vrai, c'est que la plante s'enracine bien ou pas. Mais quand elle s'enracine bien, ça fait un truc bien. Ça. Alors, faut pas hésiter à la tailler non plus, parce que ça vieillit mal. L'estragon, ça vous fait des espèces de tiges, là, qui commencent à s'alanguir, et puis après, il y a quelques feuilles au bout. Bon, on retaille, et puis ça redémarre. Mais, dans votre cas, Marie, c'est plutôt un problème de taupe, de mulot, que d'estragon, hein, parce que, bon, qu'est-ce qu'on leur donne
et
comme
terre? Et le terrain, normalement, je le mettais dans le terrain, donc c'était la terre toute bête.
Oui, voilà.
Mais, pour en pot, il faut un peu de terre. Il faut quoi?
Bon, on met toujours un peu de terreau dans les pots parce qu'il faut arriver à avoir un équilibre entre la rétention en eau, l'aération. Donc c'est quand même assez compliqué parce que c'est exactement antinomique. Mais on met un mélange de terre et de terreau, par exemple.
Surtout là, s'il est en jardin, donc on va remettre un peu sa terre d'origine. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est s'il y a des tops, certainement que vous avez un sol relativement humide.
Et riche.
Tant mieux.
Trop riche du point de vue des herbes.
Bah oui,
mais tout le monde se fait bien.
Non, mais là, vous décrivez exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un sol riche, bah, vous n'avez pas que les plantes que vous avez envie de cultiver. Tout le monde vient parce qu'on se dit, c'est là qu'il faut pousser.
On parlait tout à l'heure de basilic. André veut évoquer aussi sujet. Visiblement, il a des problèmes avec des fourmis. Et le basilic. Bon, on va rentrer dans les détails dans un instant. Patrick, ne faites pas cette tête, c'est pas grave. Je le sens songeur, Patrick. Donc, on vous entend pas en plus, Patrick, c'est normal. Patrick parle, mais il éteint le micro. Donc, alors qu'on est toujours à l'antenne, c'est ça qui est rigolo. On revient dans un instant, 8h moins le quart, le 32-16, ou bien jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre ce matin, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Allez, quelques minutes encore dans le jardin, avec ce studio qui est vraiment transformé en petit jardin, avec des plantes aromatiques et médicinales. C'est très agréable, ça sent très bon. Jusqu'à 8h, Patrick Mulan est à mes côtés en compagnie de nos invités. On attend vos questions au 3216, jardin@rmc.fr, et André est avec nous. Bonjour André.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour André, bonjour.
Merci d'avoir pris mon appel. J'ai un petit souci quand je sème, notamment basilic ou autre plante aromatique, je suis dévoré par les fourmis, les graines, j'arrive pas à en garder une en terre. Donc, je voulais savoir s'il y avait un produit particulier ou une méthode particulière pour essayer de les éliminer ou de les repousser, disons.
Bah, c'est-à-dire qu'on n'a plus grand-chose comme poudre insecticide comme on utilisait dans le temps pour mélanger avec les semences. En plus, mes amis que j'ai invités aujourd'hui vont m'arracher les cheveux et les yeux si je continue à parler de cela. Donc je vais leur donner la parole et je vais demander à David ce qu'il en pense et comment il
David
pourrait...
David a mis un petit t-shirt vert en plus.
Voilà,
David,
couleur aromatique.
Voilà. Un t-shirt vert. Donc je rappelle, David est directeur du magasin botanique de Suresnes, et botanique est une chaîne de magasins qui est dans le bio depuis quand même
pas
mal d'années.
Tiens,
67. Et il y en a un qui est ouvert dernièrement à Rueil-Malmaison.
Très bien. D'accord.
Alors David, quel est le remède miracle pour empêcher les fourmis de dévorer les graines dans les semis? Parce que là, on parle de basilic, mais ça le fait aussi souvent, par exemple, sur le gazon. J'ai vu souvent des fourmis transporter des quantités de graines de gazon.
C'est dingue.
On a mis des colonnes comme ça.
Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution miracle en tant que telle, puisque du fait qu'elles transportent les graines, c'est que voilà, elles ont leur couloir et c'est parti. Par contre, il doit y avoir une fourmilière quelque part.
Voilà.
Donc déjà, c'est aussi d'aller trouver tout de suite la fourmilière où elle se situe pour là mettre. Aujourd'hui, il existe des pièges et des pattes qui vont appâter et nourrir donc les fourmis et détruire cette fourmilière.
Mais est-ce qu'on peut mettre par exemple de l'eau chaude ou des trucs comme ça? Ça, c'est plus bio que
L'eau chaude, c'est naturel. Après, l'eau chaude, chaude, on peut pas dire que ce soit non plus quelque chose d'écologique, parce que l'eau chaude a le mérite de ne pas, je dirais, faire la différence entre une fourmi et puis une faune ou une flore plutôt sympathique du sol, vous voyez.
Mmh, bah oui, oui,
donc l'eau chaude est un très bon désherbant. Par contre, il désherbe tout. Voilà. Donc
y compris la microfaune.
Voilà, donc on le conseille pas trop. Donc c'est plutôt aller chercher la fourmilière. Après, bon, généralement quand il y a des fourmis, ça signifie, alors bon, pour ce qui est de transport de graines un peu moins, mais ça signifie qu'il y a d'autres insectes. Et généralement, c'est, vous en parliez tout à l'heure, hein, ce matin, c'est les insectes porteurs de miella, donc les cochenilles, les pucerons.
Les pucerons, il y en a fréquemment sur le basilic. Ah, c'est ouais. Rigolo, parce qu'il faut savoir quand même que les aromatiques sont des plantes qui ont développé justement ces huiles essentielles pour se protéger de leurs ennemis. Mais les ennemis se sont aussi adaptés.
Et voilà.
Et donc on voit comment fonctionne la nature. Mais je voyais Simone qui disait, elle avait un truc là pour
oui, alors, voilà, beaucoup plus doux pour les fourmis, une méthode un peu plus douce, parce que l'eau chaude, ça marche très bien, surtout l'eau chaude des pommes de terre pour enlever les mauvaises herbes. Donc
l'eau chaude des pommes de terre.
Oui. La cuisson des pommes de terre.
La cuisson des pommes de terre.
C'est un vieux truc. Honnêtement. Faut pas avoir de trop de mauvaises herbes.
Vous savez, quand il fait pas.
Comme ça, manger beaucoup de pommes de terre.
C'est-à-dire qu'il faut des grandes bassines. Non, on revient aux fourmis, qui travaillent et qui font ces galeries. Je pense que c'est intéressant de repérer leur parcours. Ça se voit très vite. Et en fait, si vous avez simplement un demi-citron et vous mettez quelques gouttes, ou vous le calez dans un angle de porte, c'est pas très joli, mais après on l'enlève. Mmh. Et ça va permettre de les éloigner et leur détourner du chemin. Donc si particulièrement vous venez de faire un semis, que vous avez pas du tout envie de partager ça avec vos fourmis.
Elles n'ont pas le citron.
Quelques gouttes de citron sur le
chemin.
Sur la rangée de graines.
Sur la rangée de graines, non, parce que sur le chemin, des fourmis, ça les éloigne. Et puis alors, le truc pour la fourmilière, parce qu'il faut les nourrir, ces petites fourmis, ce sont des fourmis travailleuses, c'est très utile, c'est le sucre. Elles sont gourmandes.
On va leur donner du miel.
Elles sont tellement gourmandes que si vous mettiez du sucre sur une souche d'arbre,
Elles viendront naturellement
et elles vont grignoter tout ça.
Donc elles n'iront pas à notre endroit.
Une fois qu'elles auront terminé, elles viendront.
Ah bah oui, non mais il faut les nourrir, il faut s'en occuper.
C'est un élevage de fourmis.
Voilà.
C'est on fait l'inverse que ce qu'on
c'est un autre
Il faut vivre en harmonie avec la nature et les fourmis font partie de la nature.
La naturalité jardinière.
Juste rapidement, avant de parler de la sauge, la question de Catherine qui nous dit, est-ce que vous avez une recette de plantes pour éviter les migraines? Alors, évidemment, on n'est pas là durant une consultation médicale, hein. Est-ce que vous avez un remède miracle, Simone?
Alors, le remède miracle, alors les éviter, ben généralement elles arrivent. Et une fois qu'elles sont là, il faut pouvoir les traiter. Alors les traiter, en tous les cas, se soulager. Donc c'est un petit remède. J'ai un petit truc. On a parlé de la menthe tout à l'heure. La menthe, elle est souveraine. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire une meilleure circulation. Et donc, en fait, il faut froisser des feuilles de menthe et éventuellement se les frotter sur le côté des tempes. Oui. Donc ça, c'est extrêmement naturel.
Ah oui, mais de l'alcool de menthe, on faisait aussi.
Alors,
ça, des extraits.
Et des extraits de menthe aussi, bien évidemment. On le prenait sur du sucre, c'était quand on était petit. Et on peut également se faire 2-3 tasses de tisane de menthe poivrée dans la journée.
Infusée.
Ouais. Alors là, si on a la migraine, on passe à la décoction. Hein. Ça va plus vite, c'est le principe actif. Donc
on repart
dans
une infusion d'eucalyptus, par exemple, de choses qui se sentent fort comme
alors
ça.
Alors là, l'eucalyptus, plutôt au niveau des bronches, ça monte un peu dans le cerveau, c'est fort. Mais bon, la menthe, vraiment, et d'ailleurs, il y a un vieux produit qui était avec une petite base en bois de menthol qu'on frottait comme ça sur le côté des tempes, qui est encore en vente en pharmacie. Donc il faut retourner voir son pharmacien.
Attenté,
il l'a encore
à tenter
et ça marche très bien.
Parfait, on parle de la sauge pour terminer.
Oui, je voulais quand même demander à David s'il faisait des ateliers un petit peu sur ce genre de remèdes et tout ça dans les magasins de temps en temps.
Alors il nous arrive, mais pas encore, mais c'est des choses auxquelles on pense beaucoup, puisque on est en train de retravailler justement nos magasins avec justement ces coins
faire des travaux pratiques
de travaux
dans les magasins,
où on a redimensionné d'ailleurs tout le potager et les aromatiques, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est quelque chose aussi où voilà, comme on disait au début de l'émission, où c'est très facile, quoi, c'est très facile d'accès pour les enfants, on peut en avoir partout dans sur le balcon, dans le jardin, dans la cuisine, on peut tenir pendant quelques semaines un pot aromatique.
On peut acheter un pot notamment de basilic et puis le consommer. Et puis après,
voilà, aujourd'hui, vous avez des lampes qui vous permettent de cultiver dans la maison vos plantes aromatiques.
C'est vrai que c'est souvent le manque de lumière.
C'est le manque de lumière, parce que après vous avez de l'eau, ça suffit. La plante se suffit elle-même. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est des choses qui sont en train d'être pensées.
De se développer. Alors, Alors on va parler de la sauge parce que en latin, enfin en botanique, la sauge c'est salvia. Salvia, ça vient de salvare, qui veut dire donc qui guérit. Et ça a été pendant des siècles la plante des guérisseurs. Et en même temps, aujourd'hui, on l'utilise aussi comme plante aromatique parce que un petit rôti de veau à la sauge, c'est vraiment très très agréable. Alors mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait avec de la sauge?
Alors on disait effectivement plus communément à l'époque, quand on avait de la sauge dans son jardin, qu'on n'avait pas besoin de médecin. Alors qu'est-ce qu'on fait plus communément avec de la sauge? On fait effectivement des infusions. Alors, cette plante elle est particulière hein, parce que c'est une plante œstrogène-like. Donc elle libère aussi plus que des principes actifs puisqu'elle a carrément un parallèle par rapport au système hormonal. Donc on peut utiliser cette sauge notamment pour un effet calmant, le bienfait digestif et la consommer aussi en effet tonifiant parce qu'elle est très bonne en association sauge, romarin, thym. Le matin, c'est extrêmement tonifiant quand on est fatigué au cœur de l'hiver, c'est parfait.
Mais c'est pas bon.
Oh, le romarin, c'est très bon.
Non mais c'est bon, mais pas en ouais, tisane.
Et la sauge, le dernier point, c'est que c'est une plante qui est très résistante à la sécheresse, ouais, donc très intéressant, donc pas beaucoup d'eau et qui se plaît dans les sols calcaires.
Donc c'est la plante de cette année, quoi, en fait, la sauge.
Exactement.
Non mais pour le sud, là, ils sont en train d'avoir du sec. Ouais. Non mais c'est vrai, une plante qui demande aucun entretien. Et pareil que ce que l'on disait tout à l'heure sur les basiliques, il y a plein de variétés. Il y a des sauges qui sont panachées, il y a des sauges qui sont colorées. Ouais. Et donc du coup, on peut en faire tout un petit massif et c'est vraiment très très sympa.
Merci à nos invités. Merci donc à David Desmarais, à Simone Bourgarel, Patrick.
Donc Simone qui a fait ce livre, oui. Pharmacopée naturelle. Je vous conseille d'aller sur notre page Facebook. Vous verrez une petite critique et une présentation de ce livre.
Voilà. Et puis en plus quelques petites photos de ce studio que j'ai glissé sur la page Facebook de votre jardin sur RMC.
Allez, la bise à tout le monde et puis à ma petite jardinière comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine et nous parlerons des plantes d'humidité. Ça sera peut-être un peu de saison. Bassin et humidité.
Alors on a évoqué tout à l'heure quelques plantes insecticides, ce sera le cas aussi, on va parler justement des insectes tout à l'heure avec Christian Pessé. Bonjour Christian, on se retrouve tout à l'heure.
Oui, on va parler des moustiques en ce moment,
ouais,
ça y a la
grosse
attaque.
Il y en a
donc
beaucoup.
De la citronnelle.
On parlera certainement de la citronnelle en aérosol ou je ne sais pas, on va voir justement
on
des
spécialistes. On verra ça avec nos invités après la météo et les infos, c'est le bricolage, la maison, la déco. À tout de suite sur RMC.